Mais d'abord, c'est monsieur Luc Lavoie pour une dernière fois cette semaine.
Me voici, me voilà. Ça va, Bernard?
Ben oui, vas-y donc.
Écoute, Bernard, l'entrevue avec monsieur Laliberté, hein, c'était ça son nom? Celui qui a perdu son épouse en oncologie.
Oui, Jocelyn Laliberté, le conjoint de Mme Céline Hadd.
Voilà. Alors moi, j'ai été voir un peu qu'est-ce qui se fait là, présentement qui fait en sorte qu'on oblige les gens à être vaccinés. Alors là, j'ai pris deux, trois exemples. Les étudiants de l'Université de Toronto, doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 s'ils souhaitent se loger en résidence universitaire l'automne prochain.
Okay.
Dans le cas contraire, les étudiants qui souhaitent emménager auront 2 semaines pour se faire vacciner.
Puis si tu ne te fais pas vacciner, ils te mettent à la porte de la résidence?
Ils te mettent à la porte de la résidence, oui. Oui. Mais par ailleurs, l'Université de Toronto compte faciliter l'accès au vaccin en abritant notamment des cliniques de vaccination en son sein.
Ah bon, OK.
Bon, là, on s'en va aux États-Unis. La banque d'affaires américaine Goldman Sachs, une des plus grandes au monde, grande, a demandé à ses employés aux États-Unis de faire savoir s'ils étaient ou non vaccinés contre le COVID afin de faciliter l'organisation du retour au bureau, selon une note de service. L'enregistrement de votre statut, peut-on lire dans la note de service, l'enregistrement de votre statut vaccinal nous permet de planifier le retour au bureau de tous les employés en toute sécurité, tout en continuant à respecter les mesures de santé publique locale. Il est par conséquent obligatoire de préciser dans une application spécifique à laquelle vous avez accès avant ce jeudi à midi, est-il ajouté. Alors, l'entreprise n'impose pas le vaccin. Okay. Ils le disent d'ailleurs. Même si nous vous encourageons fortement à recevoir un vaccin contre le COVID-19, nous comprenons que c'est un choix personnel. Maintenant, la loi canadienne et la loi américaine du travail diffèrent de façon assez radicale, mais quoi qu'il en soit, je regarde le cas des États-Unis, selon l'Agence fédérale américaine responsable du respect des lois contre la discrimination au travail, les employeurs peuvent obliger leurs salariés à se faire vacciner contre le COVID avec des exceptions pour raisons médicales ou objections religieuses. Ils peuvent aussi demander des preuves de vaccination à condition de garder ces informations médicales confidentielles.
Okay.
Alors, ce phénomène-là, il se passe partout à l'heure actuelle. Tu veux ramener ton équipe dans les bureaux, tous ceux qui travaillent en télétravail. Tu veux les ramener ensemble, mais tu ne veux pas d'éclosion. Tu veux pas qu'il arrive là ce qui est arrivé à l'hôpital à l'épouse de Monsieur Laliberté. Tu veux pas ces choses-là. Alors, ils vont l'exiger de plus en plus, puis on va voir la même chose au Canada. Les restaurants, par exemple. Tu t'en vas dans les cuisines des restaurants, là. Ils devraient être tous vaccinés, ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Ils travaillent recroquevillés les uns sur les autres. Alors, revenons au point de départ. S'il vous plaît, Monsieur le ministre Dubé, faites ce qu'il faut dans le respect des lois pour que les travailleurs de la santé soient vaccinés.
Ah, mais là, tu viens d'ajouter dans le respect des lois, Luc.
Ben, il faut respecter les lois.
Non, mais je veux dire, dans le respect des lois. Donc, dans le respect des chartes, et puis tu sais très bien que il y a quelqu'un qui va lever la main. Là. Si tu essayes d'aller trop loin dans l'obligation de se faire vacciner, il y a quelqu'un qui va lever la main pour dire, hey, c'est contre la charte. Tu n'as pas le droit de m'imposer ça.
Bernard, ils ont dit d'accord.
Je suis pas d'accord avec ça, là. Moi, je te dis ce qui va arriver. Ce qui va arriver.
Ça se peut. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est on dit, vous allez passer 3 tests par jour. Ben, ils monteront à 5. À un moment donné, si on n'est pas joué au fou avec ça, là. Moi, je veux pas aller dans un hôpital où il y a du personnel de santé qui est pas vacciné. Franchement, là, c'est dans les hôpitaux que ça s'est passé, c'est dans les CHSLD, c'est dans ces endroits clos. S'il vous plaît, il doit y avoir une solution.
Très bien. Parle-nous un petit peu du G7.
Le G7, ben oui, cette espèce de réunion un peu... moi, je commence à trouver ça plutôt théâtral qu'autre chose. Là. J'en ai vu tellement, j'en ai organisé, me suis promené dans le monde dans ces G7-là.
Moi, j'en ai couvert comme correspondant.
Moi, j'en ai couvert comme journaliste, j'en ai organisé pour la délégation canadienne qui allait sur les lieux. Il y en a organisé au Canada. Je connais le G7. C'est comme un carnaval, cette affaire-là. Il n'y a pas vraiment de grandes décisions qui se prennent là. En fait, ce que tu retrouves là, ce sont des décisions prises depuis 4 mois et gardées dans le petit tiroir spécial G7. Puis on les annonce au moment de la réunion du G7. Puis on fait une belle photo de famille. La seule utilité que je peux voir à ce G7, qui en passant n'est pas du tout représentatif que comme il l'était il y a 46 ans. Il y a 46 ans, quand le premier sommet G7 avait eu lieu à Rambouillet,
oui.
C'était Valéry Giscard d'Estaing oui. qui avait été à l'origine de ça, c'était à cause d'un choc pétrolier. Oui. On pouvait dire que les pays qui étaient autour de la table représentaient de loin les plus grandes puissances économiques du monde.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est plus vrai du tout, du tout, du tout. Le Brésil n'est pas là. L'Inde est pas là.
La Chine
n'est pas là. Mm. L'Indonésie est pas là. La Malaisie, ce sont des pays qui sont rendus avec des produits intérieurs bruts qui, ma foi, font pâlir d'envie certains pays qui font partie du fameux G7. Mais revenons à la réunion elle-même. Trudeau, le premier ministre qui est là, va annoncer plus tard aujourd'hui à partir du Royaume-Uni que le Canada fera don de jusqu'à 100 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays dans le besoin. La distribution de ces quelques 100 millions de doses devrait se faire une fois que la campagne de vaccination aura pris fin au pays, tu vois.
Mm-hmm.
On est généreux, mais...
On va se servir en premier. On va se servir en premier.
Comment dit-on? Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Oui, c'est ce qu'il met en pratique, oui.
Voilà. Et Boris Johnson, le premier ministre britannique, lui a dit qu'il faut mettre l'épaule à la roue pour finir la campagne de vaccination à l'échelle mondiale d'ici la fin 2022.
Ouf! Ouais, pas sûr de celle-là, moi, là. Ouais. Mais juste pour revenir sur l'utilité du G7, moi, je trouve que celui-ci a quand même son utilité pour recréer, je dirais, l'unité du front atlantique, recréer les liens entre l'Europe et l'Amérique. États-Unis, Canada. Parce que honnêtement, Trump s'en foutait là, de l'Alliance Atlantique. Et je pense que face à la Chine, face à la Russie, il faut avoir un minimum de solidarité, Luc. Fait que je trouve que de les voir les sept ensemble réaffirmer un certain nombre de principes et de valeurs, je pense qu'à ce moment-ci, après le départ de Trump de la Maison-Blanche puis l'arrivée de Biden, je pense que c'est une bonne chose que Poutine et que les leaders chinois voient que on retrouve une certaine unité. Tu comprends?
Ouais, hein? Mais en même temps, tu comprends, ça reste un endroit où tout le monde joue pour sa foule locale.
Mm.
La seule véritable utilité que j'ai vue, moi, dans les G7, c'est justement quand, avant la photo ou avant le repas, tu vas retrouver à un moment donné, je sais pas, moi, le président français en train de causer avec le chancelier ou la chancelière allemande. Tu vas retrouver d'un autre coin. Moi, je me souviens très bien qu'avec M. Mulroney, il y avait des problèmes assez sérieux, dont l'organisation d'un possible sommet de la francophonie qui devait se tenir à Kinshasa, au Zaïre, alors qu'il venait d'y avoir des violences incroyables en s'en prenant aux étudiants. Et la France ne voulait pas reculer. La diplomatie française disait « ça va se passer à Kinshasa, ça finit là ». Et on avait l'impression, via l'ambassade canadienne là-bas à Paris et tous nos contacts, que la réalité, c'est que ça se rendait pas à Mitterrand. Que Mitterrand, il laissait aller ça. Ben, on était dans les coulisses d'un sommet G7, et je pense que c'était à Londres, celui-là, et je me souviens très bien que M. Mulroney avait fait signe à François Mitterrand en une minute, puis il était allé dans un coin, il avait passé une quinzaine de minutes ensemble, puis le lendemain, il avait un communiqué annonçant que la France et le Canada ne participeraient pas au sommet de la francophonie à Kinshasa.
Ah ben là, mais tu vois, je trouve que tu viens de donner le parfait exemple de l'utilité de ces sommets dans les liens qui peuvent se créer. Là, tu donnes un exemple.
Les liens interpersonnels.
Ben
ça
voilà,
aussi,
important. Oui, mais c'est important, hein, c'est important, Luc.
Cela a son importance. Cependant, le G7 en a de moins en moins. C'est maintenant le G20 qui est la référence, parce que le G20 tient en compte les pays comme le Brésil en Amérique latine, les pays asiatiques.
Oui, la Russie et la Chine font partie du G20. Hein?
Ils font partie du G20. Alors, cette affaire de G7, c'est pour ça que je trouve que ça fait un peu prise de photo.
Oui, mais c'est sûr qu'il y en a. Il y a de ça, là.
Ils se sont donné trois grands thèmes cette année.
Ah,
les lendemains de la pandémie.
Ah bon, OK.
La reprise verte de l'économie, donc les changements climatiques.
D'accord.
Et troisièmement, c'est ça le vrai sujet qui a été imposé par les Américains, c'est les défis posés par la Chine et la Russie.
Ah, voilà, voilà.
Et c'est ça la vraie chose qui se passe présentement là-bas.
Bon.
Ça va aller jusqu'où, au-delà des mots? Maintenant, souviens-toi que M. Biden, il va quitter ce sommet-là, je pense que c'est dimanche, il s'en va à Bruxelles où il rencontre l'Union européenne et aussi l'OTAN, qui sont tous les deux situés à Bruxelles.
Mm-hmm.
Et là, il s'en va à Genève pour une première rencontre au sommet avec Poutine.
Oui.
Et Poutine, lui, dit « Aha! » Parce que l'autre là, le qualifié, dit qu'il était un tueur. Bien, bon, c'est pas beau, là. Le langage est pas très, très joli, hein? Ben, Poutine, lui, continue de narguer Biden. Tu sais, hier, le Washington Post avait un beau scoop. C'est vrai que c'était un beau scoop. La Russie vient de vendre un satellite d'espionnage à l'Iran. Okay? Et en fait, c'est une chose qui s'est négociée entre la Russie et les gardiens de la Révolution. Comme tu sais, c'est...
Le vrai pouvoir
extrémiste aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, Poutine annonce ça, lui. Il l'a pas formellement annoncé, mais tu voyais très bien, Bernard, que le scoop dans le Washington Post avait été drôlement bien placé. T'sais, boum, tu t'en viens pour me faire...
Il y avait eu un petit appel de quelqu'un à l'ambassade russe à Washington, un de ses contacts au Washington Post.
Oui, absolument. Quelque chose du genre. Mais c'est pas rien. Je suis en train de te dire que moi, là, la Russie, là, non seulement je suis impliqué dans le Moyen-Orient depuis que j'ai été porté à la rescousse de Bachar el-Assad, mais tu peux plus passer ici sans me parler.
Fait que c'est ça. Toi, tu veux te coller sur Israël, mon Joe Biden? Ben moi, je me colle sur l'Iran, puis on va créer un équilibre des forces.
Hein? C'est ça. Toi, tu te colles sur Israël et sur les sunnites, l'Arabie saoudite et ces pays-là. Moi, c'est l'Iran, puis c'est la Syrie, puis donc un morceau du Pakistan, puis de l'Afghanistan. C'est ça qu'il est en train de dire, Poutine.
Voilà.
Et puis, il dit, si vous voulez continuer à nous tasser dans le coin, vous allez trouver le temps long parce qu'on est capable de se défendre. C'est pas des bonnes nouvelles parce que ce genre de tension, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vécu à ce niveau-là entre les superpuissances. Et là, ça devient un peu inquiétant, Bernard.
Oui. En même temps, Luc, puis il faut vraiment aller à la pause, mais je t'ai déjà dit ça. Je me demande si c'est pas le seul langage que Poutine comprend, le langage du rapport de force. Et je me demande si le fait que Biden tienne tête à Poutine, ça va pas éventuellement recréer un certain équilibre entre ces deux-là, un équilibre de respect. Dans le temps, on parlait d'équilibre de la terreur. Et puis, tu sais, parce que après le passage de Trump à la Maison-Blanche, par moment, on avait l'impression que Trump était le chihuahua de Poutine. Là, Biden, visiblement, est dans un exercice de rééquilibrage des forces. Et j'espère qu'à un moment donné, on va trouver un espèce de terrain mitoyen, de motus operandi, de motus vivendi.
Là-dessus, Bernard, à la condition de ne pas se faire d'illusions. C'est pas vrai que les États-Unis vont redevenir aussi hégémoniques que dans les années 50 et 60.
On s'entend.
Parce que le monde a changé, mais beaucoup.
On s'entend, Luc. On se reparle un peu plus tard quand on va parler de l'euro.
Avec plaisir.
On s'en va à la pause, au retour, les chantiers du week-end et les problèmes avec les conteneurs. Si vous pensez que ça vous concerne pas, les conteneurs, tu sais, par bateau, là, vous allez voir, ça vous touche de près.